Chers amis, bonjour. Nous commençons aujourd'hui donc une deuxième semaine de notre parcours Dieu avec nous dans l'épreuve. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce parcours. Ensemble, un petit peu partout en France, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole qui vient nous rejoindre dans les épreuves de notre quotidien. Alors, comme nous l'avons fait la semaine dernière, du lundi au mercredi, nous cheminons avec des personnages ou avec des situations vécues par l'ensemble du peuple dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, je vous propose de cheminer avec celui qui est peut-être l'icône de l'épreuve, Job. Le livre de Job, c'est un livre très étonnant. C'est un livre qui est à la fois très attractif et en même temps très difficile à lire. Je dis très attractif parce que nous sentons bien, lorsque nous parlons du livre de Job, que nous allons trouver dans ce livre une réponse aux questions que nous nous posons sur le sens de la vie, et peut-être plus particulièrement sur le sens de la souffrance. Combien de personnes, combien d'entre nous peut-être, n'ont pas cherché ce réconfort, et d'ailleurs souvent trouvé, dans le livre de Job? Mais c'est une lecture difficile aussi. C'est un livre très long, 42 chapitres. Le tout début et la toute fin nous racontent l'histoire de Job, un Job qui perd tout au début et qui retrouve tout, et même davantage à la fin. Mais au milieu, ce sont pratiquement 40 longs chapitres, des discours poétiques entre Job et trois de ses amis, entre guillemets, Éliphaz, Bildad et Sophar, et puis un quatrième, Élihu, le tout entrecoupé de réponses de Job et de quelques interventions de Dieu, essentiellement à la fin. Et il faut bien le reconnaître, le tout peut sembler très long. Il y a beaucoup de choses qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Alors l'histoire qui encadre ces discours est relativement simple. Au début, Job est un homme d'une grande richesse et profondément juste. Satan prétend auprès de Dieu que la justice de Job est liée à sa richesse. Dieu autorise alors le Satan à toucher aux richesses de Job, qu'il perd en un instant, y compris ses fils et ses filles. Mais Job garde sa justice. Au chapitre 1, versets 20 et 21, Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête et dit: Nu je suis sorti du sein maternel, nu j'y retournerai, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le Satan, déçu, insiste auprès de Dieu. Job, dit-il, ne persiste dans la justice que parce qu'il est resté en bonne santé. Alors Job est frappé par la maladie. Même sa femme l'incite à maudire Dieu. Mais Job continue dans sa justice. Il dit, chapitre 2, verset 10, Si nous accueillons le bonheur comme don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? Alors après, à partir du chapitre 3, c'est un très long dialogue. Le thème de ces dialogues entre Job et ses amis, c'est peut-être celui de la rétribution. Les amis de Job partent de ce principe. Le bonheur, c'est une récompense de Dieu pour la justice. Le malheur, c'est une punition divine à l'injustice. Donc, si Job subit le malheur, c'est nécessairement qu'il a péché, même si c'est d'une manière invisible. Et si Job se convertit sincèrement, il pourra retrouver le bonheur. Job, lui, de son côté, continue à clamer son innocence sans comprendre les causes de sa souffrance. Dans le dialogue, Job crie sa souffrance vers Dieu. Par exemple, au chapitre 30, versets 20 à 23. Vers toi je crie et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi et tu me fixes du regard. Tu es devenu cruel pour moi. De ta poigne vigoureuse, tu t'acharnes sur moi. Tu m'emportes sur le vent, tu m'y fais chevaucher, tu me dissous dans l'orage. Oui, je le sais, tu me ramènes à la mort, au rendez-vous de tout vivant. Dans le livre de Job, longtemps Dieu semble absent. Et finalement, Dieu répond à Job, du milieu de la tempête. D'abord d'une manière qui peut paraître un peu dure. Chapitre 38, versets 1 à 4. Quel est celui-là qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens? Ceins donc tes reins comme un homme. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Alors Job répond avec humilité. Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois, je n'ajouterai rien. Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ensuite, Dieu se met en colère contre les trois amis de Job, qui n'ont pas su consoler Job, et qui, au contraire, ont voulu apporter des réponses simplistes aux souffrances de leur ami. Il leur ordonne de demander à Job d'offrir des sacrifices en leur faveur. Puis Dieu restaure Job dans sa santé et sa fortune. Au chapitre 42, verset 12, le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Alors, que nous dit Job? La première chose, c'est peut-être ce qu'il ne nous dit pas. Lorsqu'on arrive à la fin du livre de Job, on est peut-être un petit peu déçu. Au fond, nous n'avons pas eu de réponse très claire à la question du sens de la souffrance. Pourquoi est-ce que Dieu permet l'épreuve? Est-ce qu'il y a un lien entre notre péché et notre souffrance? Est-ce que les difficultés que nous vivons sont méritées? Dieu ne donne pas de réponse. Et peut-être que la première chose, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de réponse. Au moment de la création, Dieu avait fait l'homme avec des limites. L'homme n'est pas tout-puissant, il ne peut pas tout faire. L'homme ne peut pas non plus tout connaître. La limite à la toute-puissance de l'homme, qui est contestée aujourd'hui par certaines de nos manières de faire ou par nos manières de vivre, c'est une bonne nouvelle. Les limites nous permettent de reconnaître nos manques et nos besoins, et elles nous permettent ainsi de nous tourner vers les autres. Les limites à notre connaissance sont elles aussi une bonne chose. Elles nous conduisent à chercher. Elles nous conduisent à nous ouvrir aux lumières de Dieu, à ce que Dieu peut nous révéler ou à ce que nous pouvons comprendre. Ne pas comprendre immédiatement, ça peut devenir un moteur pour aller plus loin, un stimulant pour notre recherche. Concrètement, aujourd'hui, si nous ne comprenons pas le sens de ce que nous vivons, cela peut devenir, comme pour Job, le moteur de notre recherche. Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi à approfondir, aide-moi à découvrir ce que tu veux me révéler sur toi, sur moi-même, sur le monde dans cette situation inédite. Accepter de ne pas avoir de réponse toute faite aux questions que pose la souffrance, c'est aussi une invitation à ne pas donner de réponse trop rapide à des situations de souffrance. Ceux d'entre nous qui ont connu des souffrances intenses ou des situations particulièrement douloureuses savent le mal que peuvent faire des comportements maladroits, des explications simplistes, comme celle des amis de Job, qui l'invitent juste à reconnaître son péché. Évitons de donner des réponses trop rapides. Des réponses trop rapides, peut-être par rapport aux personnes qui souffrent. Et des bons conseils peuvent parfois être utiles, mais ils ne doivent au mieux arriver que dans un second temps, après le temps de l'écoute, après le temps de la compassion, le temps de l'accueil de la souffrance de l'autre. Ne redoublons pas la souffrance des personnes que nous rencontrons par notre manque d'écoute. Et nous avons vu que pour Job, l'attitude extérieure de Eliphaz, Bildad et Tsophar a dû être une souffrance plus grande encore que la perte de tous ses biens, que la maladie. Un peu de chasteté aussi dans nos paroles sur le monde. Et il me semble qu'en quelques jours, des millions de personnes sont devenues des experts médicaux, des spécialistes de la gestion de crise, des professionnels des pandémies. Peut-être que ces réponses rapides, simplistes, ne sont pas toujours utiles. Job, c'est également le modèle d'une confiance absolue en Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Mais ce n'est pas une confiance bête, irréfléchie. La confiance de Job, au contraire, elle est exigeante. Elle s'approfondit tout au long de l'épreuve. C'est une confiance qui dépose la douleur devant le Seigneur. C'est une confiance qui reconnaît l'incompréhension. Seigneur, je ne comprends pas, je refuse les explications simplistes, je t'offre ma fidélité. C'est une confiance qui maintient jusqu'au bout le dialogue avec Dieu. C'est une confiance aussi qui accepte une parole un peu rude de Dieu. C'est une confiance dans laquelle Job est acculé à déposer toute sa vie, vraiment toute sa vie, dans la main de Dieu. Il dépose sa vie pour la recevoir de Dieu, d'une manière nouvelle. Donc Job nous apprend à fuir toute mauvaise lecture extérieure des événements, à éviter des conseils simplistes. Il nous invite donc aussi à une vraie compassion. Et ça pourrait être aujourd'hui l'occasion d'une vraie démarche de compassion. Aujourd'hui, je peux prendre le temps d'appeler, d'écouter une personne qui, je le sais, en aurait besoin. Je prends le temps tout simplement de l'écouter et de l'encourager. Belle journée avec Dieu.